Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondé.
Clôture hier à Johannesburg du colloque sur la vision minière de la SADC. À l'issue de ses assises, la RDC est appelée à revoir le modèle de gestion de son secteur minier. Accalmie dans le groupement de Jomba malgré la psychose encore perceptible dans certains villages, l'armée poursuit les opérations de ratissage autour de Bounagana après avoir stoppé mercredi l'avancée des rebelles du M23. Madame Oulimata Sarr, directrice régionale de l'ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, est notre invitée. ONU Femmes rêve d'un gouvernement 50-50 pour la RDC et plaide pour plus de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'issue des prochaines élections. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, sachez que la RDC a un nouveau bâtonnier national, président de l'Ordre national des avocats. Il s'agit de Maître Tchebele. Il remplace à ce poste Maître Matadi Wamba à l'issue d'une élection hier jeudi à la Cour de cassation. Je le disais tantôt, la RDC doit revoir le modèle de gestion de son secteur minier. Le pays ne peut plus se limiter à exporter ses minerais stratégiques tout en important les biens et équipements qui en découlent. Aussi, la République démocratique du Congo peut capitaliser son adhésion au sein de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe, SADC. Cette recommandation marque la clôture du colloque de deux jours qui s'est tenu à Johannesburg du 30 au 31 mars sur la vision minière de la SADC. Une initiative de l'organisation Southern Africa Resource Watch, SARO, et ses partenaires. Écoutez Claude Kabemba, directeur de SARO, au micro de notre envoyé spécial à Johannesburg, Cynthia Bachizi.
Aussi longtemps qu'on va continuer avec le modèle que nous avons, là où nos minéraux sont contrôlés par les compagnies minières étrangères qui exploitent, qui extraient et qui vendent à l'extérieur sans une valeur ajoutée à ces minéraux, nous sommes en train d'exporter les emplois et nous sommes en train de retarder l'industrialisation du pays. Il faut un changement de paradigme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des investissements étrangers. Vous avez suivi la présentation du Botswana. Un modèle là où il y a cette appropriation, le contrôle de minéraux. Dans leur secteur du diamant, le Botswana, le gouvernement a droit à 51% de production qui est transformée au Botswana. Le gouvernement du Botswana a 26% d'action dans chaque mine. Quand vous calculez tout ça, les retombées sur l'économie du Botswana sont plus meilleures. Ce qui est discuté ici, c'est qu'un pays comme le Congo ne doit pas tout simplement vouloir faire ça seul. Il y a toute une région qui a des capacités, qui a des infrastructures. Est-ce qu'il y a possibilité de la République démocratique du Congo de créer des alliances avec d'autres pays pour mettre en place des structures?
Dans la province de La Tchopo, controverse autour des services habilités à prester dans les ports, alors que l'auditorat militaire dénonce l'entêtement et même la résistance de certains services non attitrés à se retirer des beaches, la commune Makiso, citée parmi ces entités, déclare que l'auditorat veut outrepasser ses compétences puisque privé de ses ressources financières pendant environ un mois. L'autorité provinciale devra trancher en vue d'éviter la confusion sur le terrain. Le point avec Jacques Mkonkole.
Selon le major magistrat Ntambu Kilembu de l'auditorat militaire supérieur, au moins 20 services sur les 11 autorisés dans la Tchopo opèrent dans les beaches de la ville. Parmi eux figurent notamment la police judiciaire, les renseignements militaires, la commune Makiso, la mairie, l'environnement, la division du commerce extérieur et l'industrie. Rappelés à l'ordre, ils n'en veulent pas.
Il y a même des menaces de la part des responsables de certains services qui ne sont pas autorisés, donc qui tiennent à tout prix pour aller presser dans des ports de force pendant que l'autorité provinciale a dit qu'on puisse respecter l'ordre opérationnel.
La plupart des services incriminés gardent leur langue en poche. Néanmoins, le bourgmestre de la commune Makiso est le seul à pouvoir délier la sienne, Olivier Katanga Massoud.
Est-ce que l'auditorat militaire peut aller jusqu'à interdire à une entité de ne pas percevoir les taxes dues à l'entité conformément à la loi? Non, l'auditorat n'a pas cette qualité, n'a pas ce pouvoir. Mais plutôt l'auditorat peut arrêter la police, l'armée et des consorts qui sont en train de tracasser les gens là-bas.
Afin d'éviter les tracasseries aux citoyens qui se débrouillent dans les beaches, le gouverneur de province est appelé à tirer les choses au clair. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Une accalmie est observée actuellement dans le groupement de Jomba et la psychose reste perceptible dans les villages où l'on observe un retour timide de la population. Les FARDC poursuivent les opérations de ratissage tout autour de la cité de Bunagana après avoir stoppé mercredi l'avancée des rebelles du M23 vers Bunagana. Depuis Goma, Gabriel Omenia nous fait le point de la situation.
Bien qu'une accalmie apparente s'observe depuis mercredi dans les zones de combat qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 depuis le début de cette semaine, la situation sur les lignes de front reste imprévisible. Les acteurs coutumiers et ceux de la société civile de Rutshuru redoutent la reprise des combats entre les deux belligérants qui consolident chacun ses positions. Les rebelles qui se sont retirés mardi de la zone de Tchengerero, présentement sous contrôle de l'armée, se sont fondus dans la nature sans connaître exactement leur objectif et la direction qu'ils ont prise dans la zone. Aux alentours de la cité de Bunagana, où les FARDC les ont repoussés mardi, les acteurs coutumiers de Jomba s'interrogent également sur leur destination et appellent la population et l'armée à la vigilance. Cette stratégie adoptée par les M23 qui maintient toujours ses positions conquises à Chanzu et Runyonyi ne laisse aucun doute que ces rebelles qui se seraient concentrés actuellement sur la colline de Bususa près de la cité de Tchengerero s'y reprennent l'armée par des combat ouvert sur plusieurs fronts précises, les sources concordantes dans les territoires de Rutshuru. Rappelons que le retour timide de la population est observé surtout dans les villages de Rwanguba, Bunagana et Kinyamaoro. Goma, Gabriel Wameya, Radio Kapi.
Après les députés nationaux, c'est au tour des sénateurs de recevoir des véhicules 4x4 de marque Hyundai Palisade, dont du gouvernement. Si pour la plupart des sénateurs de l'Union sacrée, l'acquisition de ces véhicules est importante pour leurs moyens de transport, certains, notamment ceux de l'opposition, déclinent l'offre. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Dans une lettre adressée au président de la Chambre haute du Parlement, il estime que l'argent qui a servi à acheter ces véhicules pouvait servir à construire des universités et des écoles. Michel Kifindangoy nous raconte.
Déclinant le don de la Hyundai Palisade faite aux sénateurs par le gouvernement, le premier ministre honoraire estime que cette offre symbolise la mauvaise gouvernance de la gestion des affaires de l'État en RDC. Pour Augustin Matata Ponyo, il est incompréhensible et inacceptable qu'au même moment que la plupart des députés et ministres provinciaux accusent plusieurs mois de retard de paiement de leurs monuments et rétrocessions, qu'un tel don de plusieurs dizaines de millions de dollars américains soit accordé à quelques 609 députés et sénateurs. Dans sa correspondance adressée à Bahati, Matata signale qu'au prix du marché réduit à 65 000 dollars par véhicule, les 609 Hyundai Palisade coûteraient près de 40 millions de dollars américains. Utilisés rationnellement, ajoute l'ancien premier ministre, ces fonds sont en mesure de financer soit la construction de 3 à 4 universités dans les provinces, ou de plus de 400 écoles primaires, 4 grands hôpitaux régionaux, ou même l'acquisition des 2 avions Airbus d'occasion ou encore des 400 grands bus Transco pour le transport en commun. Pour rappel, à l'Assemblée nationale, les députés de l'Issé Sanga, Némi Mouilania et Jean-Baptiste Mouindo avaient aussi décliné cette offre.
Jean-Marc Kabundo démissionne du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans un tweet hier jeudi, il dit avoir déposé sa démission au bureau de la Chambre basse du Parlement. Cette démission avait déjà été annoncée sur Twitter au lendemain de l'attaque de sa résidence par les éléments de la garde républicaine. Depuis lors, Jean-Marc Kabundo avait été désavoué par sa famille politique et a même quitté le pays pour des soins médicaux en Europe où il se trouve actuellement. En réaction à cette nouvelle, le président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale affirme que c'est tout à fait normal que Jean-Marc Kabundo démissionne de ce poste qui appartient au parti. Léon Moubika y renseigne que le nom de son remplaçant sera révélé très bientôt. Il a été joint par Blaise Chindani.
C'est normal, c'est la logique même, parce que notre collègue sait qu'il occupait un poste de l'UDPS et que, étant radié de l'UDPS, il ne peut pas continuer à occuper illégalement les postes qui ne lui appartiennent pas.
Il n'est plus dans l'UDPS.
Ah, mais il a été radié du parti. Étant radié du parti, il ne peut pas occuper illégalement un poste qui ne lui appartient pas.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Ce qui va se passer, c'est qu'il sera remplacé. Les démarches sont en cours pour son remplacement. Ça avait commencé depuis longtemps. On attendait que ça pour formaliser. Le candidat sera révélé bientôt. Le groupe doit se réunir et le candidat sera révélé bientôt. Mais aussi, c'est pas seulement l'apanage du groupe, mais c'est aussi la collaboration, un terrain de collaboration avec les banques.
Le candidat sortira de l'UDPS ou de l'Union Sacrée?
De l'UDPS. C'est un poste de l'UDPS. Quand on a constitué les tickets, ce poste-là était réservé à l'UDPS et ça sera un membre de l'UDPS qui va l'occuper.
L'épineuse question des contentieux électoraux en RDC était au centre d'une journée de réflexion hier jeudi à Kinshasa. Elle était organisée par l'Ordre national des experts électoraux, ONEL, et la Force au peuple pour le changement en RDC, FOPEC-RDC. Au regard de multiples conflits électoraux non résolus équitablement par le passé, ces deux organisations conviennent de militer ensemble pour la paix, la justice et l'équité électorale en RDC, ce qui nécessite une sensibilisation de différentes parties prenantes pendant toutes les phases des prochaines élections. Écoutez à ces sujets le président de ONIL, Nestor Maroy, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
En ce moment ici, la CENI est en train de faire l'actualisation de ses cartographies. Après, la CENI va organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et à ce niveau-là, il y a un contentieux lié à l'inscription des électeurs. Et après, il y a le contentieux lié également à la présentation des candidatures. Pour nous, la population doit le savoir déjà avant pour pouvoir éviter toutes les situations et les cas qui peuvent compromettre l'inscription d'un électeur. C'est opportun que les gens le savent déjà avant. Donc, nous sommes venus appuyer FOPEC, qui est une organisation, une association de députés qui effectivement veulent aussi apporter une pierre à l'édifice dans le domaine de la sensibilisation électorale et des contentieux électoraux. Comme vous le savez, il y a des députés qui avaient été invalidés et qui n'avaient pas compris pourquoi ils ont été invalidés, n'ayant pas maîtrisé l'ABC des contentieux électoraux. Voilà pourquoi ils nous ont approchés en tant qu'une instance technique des experts électoraux pour que nous puissions l'accompagner dans la compréhension des contentieux électoraux. Et enfin, qu'ils sensibilisent aussi les électeurs pour qu'ils comprennent comment ça se règle les contentieux électoraux dans les juridictions reconnues par la loi pour lire les contentieux.
Cet événement a également été marqué par la sortie officielle de l'ASBL, Force au peuple pour le changement en RDC, une organisation des députés nationaux qui poursuit les objectifs de mobiliser, fédérer et représenter toutes les victimes de l'injustice électorale. Justice en transition et enjeu de la restitution des restes des corps humains de la période coloniale. La question a été hier, jeudi, au centre d'une conférence scientifique d'échange entre les étudiants, les corps scientifiques de l'Université de Kinshasa et des chercheurs impliqués dans le projet belge HOME, une initiative de l'UNIKIN et son école de criminologie. D'après le professeur Placide Mubembele de l'Université de Kinshasa et Institut des musées nationaux du Congo, l'échange avec les universitaires congolais a pour visée d'éveiller la conscience des uns et des autres quant à la nécessité d'une implication pour des recherches approfondies sur le plan juridique, culturel et historique afin que ce processus se concrétise en faveur de la RDC. Professeur Placide Mubembele s'exprime au micro de Billy Van Lutumba.
Le but de cet échange aujourd'hui, c'est d'abord de sensibiliser l'universitaire congolais, de dire que non, attention, il y a un autre pan de notre histoire qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être approfondi pour que nous puissions également nous approprier complètement de notre histoire. Parce que le domaine de la restitution des restes humains, c'est un domaine qui n'est pas abordé et par nos juristes, qui n'est pas abordé par des chercheurs. Parfois, c'est d'autres qui réfléchissent à notre place. Donc voilà pourquoi il était important que nous puissions échanger avec des collègues, des professeurs, et des étudiants, des assistants. Nous attendons d'eux une contribution scientifique, un engagement scientifique pour que leur réflexion puisse nourrir davantage cette thématique qui, de manière générale, est abordée par d'autres chercheurs que par nous. Quel est le point de vue des chercheurs congolais sur la question? Donc, nous devons éviter de réfléchir par procuration et sur des thématiques aussi importantes que celles-ci.
Quatrième livraison de notre série de reportages sur l'enseignement supérieur et universitaire de l'Université de Kinshasa. Michel Kifindangoy nous emmène aujourd'hui à l'Université de Kalemie dans le Tanganyika.
En entendant le financement du gouvernement, l'actuel comité de gestion a amorcé un projet ambitieux de construction de nouveaux auditoires à la grande satisfaction des étudiants. Témoignage de Léonard Dedjou, délégué général de l'UNICAL.
Nous avons acquis premièrement une clôture qui entoure la cour universitaire, un bâtiment dont nous avons 8 bureaux facultaires, une salle labo informatique et une bibliothèque, un bâtiment en pleine construction qui a 8 auditoires ayant la capacité d'accueillir à peu près 500 étudiants, un bâtiment qui porte 4 grands auditoires, dont l'un sera un amphithéâtre.
Tous ces travaux sont réalisés sur fonds propres de l'université à partir d'une ligne budgétaire dégagée des frais académiques payés par les étudiants, précise le professeur Victor Kalunga, recteur de l'UNICAL.
Nous n'avons bénéficié d'aucun appui budgétaire du gouvernement central. Il existe un projet gouvernemental de construction des bâtiments pour l'université d'Académie. Les travaux de fondation avaient été achevés, mais subitement arrêtés. Avec 1,5 million de dollars, nous pourrons reprendre les travaux et les parachever en un temps record.
Avec environ 2000 étudiants, l'UNICAL ne pourra pas se construire sans sacrifice si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, ajoute le recteur Victor Kalunga.
Actualité internationale.
Le président russe a annoncé hier jeudi avoir signé un décret imposant aux acheteurs des pays étrangers, inamicaux, de payer en roubles les livraisons de gaz naturel à compter de ce vendredi et prévoyant la suspension de contrats en cours s'ils n'obtempèrent pas.
L'invité.
Une femme rêve d'un gouvernement 50-50 pour la RDC et plaide pour plus de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'issue des prochaines échéances électorales de 2023. C'est l'une des substances de la visite en RDC de la directrice générale régionale de l'ONU Femmes Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Madame Oulimata Sarr. Elle répond ici aux questions d'Honoré Missengakalala.
Madame Oulimata Sarr, bonjour.
Bonjour.
Quel sens donner à la visite en RDC de la directrice régionale de l'ONU Femmes Afrique de l'Ouest et Afrique centrale en ce moment et quel a été l'objectif de cette visite?
Alors, je suis venue au Congo, un pays magnifique qui joue un rôle central en Afrique centrale. Je suis venue dans le cadre d'une mission sur l'autonomisation de la femme congolaise. Je suis venue aussi parler de représentativité. Vous savez que nous allons vers des joutes électorales en 2023. La Constitution du Congo, en son article 14, consacre la parité. Donc notre vœu le plus cher, c'est que la révision de la loi électorale prenne en compte la parité, le quota pour les femmes. Et nous sommes venus parce qu'on pense que nous avons une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir. Je pense qu'il est extrêmement important, lorsqu'on visite un pays, de voir toutes les parties prenantes. Nous avons vu les jeunes, nous avons rencontré les organisations féminines, mais nous avons aussi rencontré la CENI. La Commission électorale nationale indépendante joue un rôle extrêmement important de conseil, aussi bien du gouvernement que de l'Assemblée nationale. Puisque la relecture de la loi électorale se fera, on cherche ces champions, ces hommes engagés qui vont vraiment travailler avec nous pour autonomiser la femme, lui donner sa représentativité au Congo. Donc nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale et nous avons vraiment trouvé une oreille très attentive. Il nous a d'ailleurs partagé quelques belles histoires de femmes leaders qu'il a eu à encadrer. Et donc je pense que nous avons trouvé en lui un allié. Et nous avons parlé de la Constitution, de la loi électorale. En tout cas, je pense qu'on est sorti rassuré que sous son leadership, que les choses vont peut-être changer.
Madame, les principaux obstacles à l'épanouissement total des femmes dans leurs droits en Afrique, d'une manière générale, sont d'ordre culturel, politico-juridique et socio-économique. Sur quel axe ONU Femmes oriente-t-elle son combat pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes?
Moi, je pense que c'est un combat qui doit avoir une approche holistique. Nous, lorsque nous regardons la femme, nous regardons ses droits, sa représentativité, mais aussi son autonomisation économique. Au niveau de nos programmes au Congo, nous couvrons plusieurs domaines. Nous couvrons la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je tiens d'ailleurs à saluer la première dame que nous avons aussi rencontrée, qui est une femme très engagée sur l'éradication des violences faites aux femmes sous toutes ses formes, avec la campagne Zéro Tolérance et son engagement personnel. Nous travaillons aussi sur les questions de paix et de sécurité. Le Congo dispose d'un plan d'action national sur la 1325 de deuxième génération qui est valable jusqu'en 2023 et qui vraiment mobilise les organisations de la société civile pour faire bouger les lignes. Nous travaillons aussi sur les questions de gouvernance et de participation politique des femmes. Nous, au niveau de ONU Femmes, nous aimerions voir beaucoup plus de femmes au Sénat, beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale. Nous rêvons d'un gouvernement paritaire, pourquoi pas, comme d'autres pays de la sous-région, comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, pour ne nommer que ces pays-là. Moi, je viens du Sénégal. Le Sénégal a une Assemblée nationale paritaire. Nous sommes aussi paritaires au niveau des territoires. Donc nous pensons qu'un grand pays comme le Congo doit rejoindre cette coalition où les voix des femmes sont amplifiées.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez les femmes congolaises ?
Ce qui m'impressionne le plus chez les femmes congolaises, ce sont des femmes dynamiques, entrepreneurs, résilientes. Et je pense que ce dynamisme, cette résilience, si nous l'accompagnons, nous aurons un Congo émergent. À ONU Femmes, nous aimons toujours regarder les plans nationaux de développement. Au Congo, c'est le PNSD. Et dedans, on parle de capital humain. Ce capital humain, c'est 52% de femmes. Et nous sommes convaincus que si nous libérons leur potentiel, nous pourrons aller vers l'émergence, car l'émergence est une femme.
Vous êtes native originaire du Sénégal. Sur le plan du leadership féminin, est-ce que vous avez une expérience à partager avec les leaders féminins de la RDC?
Oui, je pense qu'on a de belles expériences. Vous savez que le bureau que je couvre, couvre 24 pays. Donc, nous avons un compendium de tous les articles, les quotas, les parités partielles, les mesures temporaires, incitatives, contraignantes. Donc, nous avons une belle expérience sur la représentativité sur le continent. Et je pense qu'on pourra partager les meilleures pratiques, les leçons apprises avec nos sœurs du Congo pour faire avancer les choses.
Madame Ouimata Sarr, merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.